Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur l'antenne d'Aligre FM 93.1. C'est Au fil des pages, Nadia Outaïeb au micro cette semaine pour parler de la 13e édition du festival Formula Bula. Ça commence demain, et ça tombe bien puisque c'est à Césure depuis 2 ans déjà et que nous émettons désormais depuis ce lieu dédié aux savoirs inattendus.
Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des
clip, crack,
des
bang,
des bon, et des
zip, shabam, pow, blop,
whew. Les swings et les uppercuts, ça fait,
flamme,
ça fait,
splash,
et ça fait,
ch'top,
ou bien,
bon,
ou,
oh,
parfois même,
shabam, pow, blow, whew.
Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des,
oui,
des,
clip, crack,
des,
bang,
des,
blow,
et des,
zip, shabam, pow, blow.
Viens avec moi par-dessus le building, ça fait
wind,
quand on s'envole, et puis
cling,
après quoi je fais
tilt,
et ça fait.
Et avec nous sur Aligre FM pour parler du Festival international de bande dessinée Formula Bula qui se tient à partir de demain et jusqu'au 28 à Césure. Son fondateur, l'un des fondateurs du festival, directeur artistique Raphaël Barbon, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avec nous également Serge Evanzik, fondateur des éditions Ça et Là et éditeur aujourd'hui de ce qui est devenu une SCOP. On en parlera tout à l'heure, je pense. Je me tourne d'abord vers vous, Raphaël Barbon. Ce festival a quelle vocation ? Il existe depuis bientôt 13 ans, c'est sa 13e édition. C'est un festival désormais connu des adeptes de la bande dessinée et du roman graphique. Il a une dimension internationale. Quelle était sa vocation au départ lorsque vous l'avez imaginé ?
Alors, Formula Bula, je ne sais pas s'il a une vocation, mais en tout cas, il a plusieurs pistes. Le postulat de départ, c'était vraiment d'essayer de faire redécouvrir des auteurs et des autrices un peu oubliés et qui pourtant comptaient dans l'histoire de la bande dessinée, et de leur associer des générations plus contemporaines. Voilà, c'était vraiment, et d'avoir un panorama sur la bande dessinée, ce qu'on appelle indépendante ou alternative, de défendre une bande dessinée qui a besoin d'être défendue et que nous on aime. Et voilà, c'était un peu ça le postulat de Formula Bula. Mais en fait, on a vraiment à chaque édition, on construit notre projet de façon totalement libre et un peu azimutée, au gré de nos envies. Cette année, par exemple, on a tiré un fil en imaginant une exposition autour de Aline Kominski-Crumb, et on a autour d'elle construit quelque chose, parce que faire une programmation, pour moi, c'est écrire quelque chose, c'est raconter quelque chose. Et donc, voilà, il n'y a pas vraiment une vocation établie au départ. C'est très subjectif, c'est un festival très subjectif. Qui nous ressemble et qui, j'espère, peut aussi toucher des gens qui viennent au festival.
Alors, à travers Aline Kominski, ce sont les femmes et les femmes engagées aussi que vous avez souhaité mettre à l'honneur, engagées à travers l'écriture, mais aussi engagées dans les années 70 en ce qui concerne cette autrice en particulier, à un moment où les femmes dans le milieu du comics n'ont pas encore forcément trouvé leur place. C'était important aussi de revenir sur ce pan d'histoire.
Ouais, c'était important pour nous parce que Aline Kominski-Crumb, on l'a, le grand public l'a redécouverte ou découverte cette année, enfin à la fin de l'année 2024, avec la publication en français de Sacré Bunch aux éditions L'Association, et qui est un livre important qu'on connaissait dans sa version anglaise. Et bon, Aline Kominski-Crumb, comme son nom l'indique, a certainement une carrière qui a été un petit peu effacée par l'immense célébrité de son mari.
Avec qui elle a collaboré aussi.
Oui,
en
bien
mettant
sûr.
Notamment en scène avec beaucoup de recul pendant le Covid, leur vie amoureuse, leur quotidien amoureux ou de désamour.
Ouais, tout à fait. Et Aline Kominski, ce qui ressort quand on se plonge dans son travail, c'est qu'elle est traversée, elle porte un témoignage de tout ce qui a traversé la société américaine, en l'occurrence des années 70 quand elle a débuté jusqu'aux années 2000 en France. Elle aborde des sujets sans filtre, des sujets importants comme la sexualité, l'émancipation, le patriarcat, la religion... On a aussi retrouvé dans des jeunes autrices, enfin en tout cas des autrices et des auteurs, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont invités à Formula Bulla, des correspondances avec cette façon d'être des caisses de résonance, de porter des grands sujets sociétaux dans leurs travaux. Et donc c'est comme ça qu'on a construit cette programmation.
En mettant à l'honneur autour d'Aline Kominski, qui est décédée en 2022, d'autres femmes auteurs de bandes dessinées, on en parlera tout à l'heure. Serge Venzik, pour un éditeur indépendant, que représente un festival comme celui-ci? Vous avez créé les éditions Ça et Là, je le rappelle, elles ont 20 ans. Et ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Vous expliquez souvent que c'est un travail qui représente une charge mentale importante. On ne sait pas ce que sera demain. Vous, votre parti pris, ça a été de publier des auteurs étrangers dès le départ. Un festival comme Formula Bulla, pour une maison d'édition comme la vôtre, qu'est-ce que ça représente ?
Formula Bulla fait partie des festivals incontournables pour les maisons d'édition indépendantes dans le champ de la bande dessinée. C'est un des rares festivals où l'ensemble de la programmation est dédié à des auteurs ou autrices publiés par des maisons d'édition indépendantes. Il y en a très peu, et c'est vrai que cette volonté de mettre en avant la diversité de la bande dessinée à travers le travail qui est fait de défrichage qui est fait par des maisons d'édition indépendantes, c'est pour nous très 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 important. Et c'est vrai que la qualité de la programmation, les expositions, les rencontres qui sont organisées, et puis le choix aussi des maisons d'édition qui sont là. C'est vrai que je sais pas combien de maisons d'édition sont présentes sur le salon.
55, je crois.
Cette année, on est à 60.
60 maisons d'édition représentent vraiment de façon très... très précise et très, enfin toute la variété de cette production qui est très riche. Donc c'est vrai que c'est devenu un rendez-vous incontournable, en fait, tout simplement, et encore plus pour les maisons d'édition qui, comme la nôtre, sont franciliennes. C'est vrai que on est à domicile, donc on est plutôt mal servi, je dirais, en termes d'événements bande dessinée sur la région parisienne. Il n'y a pas grand chose parce que c'est compliqué pour un événement culturel d'exister, j'imagine. Enfin, Raphaël pourra peut-être nous en parler, mais toujours est-il que on participe à Formula Bulla depuis près d'une dizaine d'années et on est très content de voir comment l'événement s'est développé aussi, parce qu'il a pris beaucoup d'importance, notamment ces trois dernières éditions. Et on a eu la chance et l'honneur de remporter le prix Formula BD qui a été créé il y a 3 ans maintenant, je crois, l'année dernière, avec le roman graphique Walicho de Sol Otero, une autrice argentine qu'on a publié. Donc voilà, c'est un festival avec lequel on a beaucoup d'affinités.
Et c'est un festival, Raphaël Barban, qui est pensé, comme on l'a vu, un espace de rencontre entre éditeurs alternatifs, mais aussi évidemment de rencontre avec le public, et aussi comme un laboratoire de création, puisqu'il n'y a pas seulement le village des éditeurs, 60 cette année, et les rencontres possibles avec les 200 auteurs, autrices que vous avez conviés cette année. Il y a aussi des ateliers de création et une manière, c'est pour vous aussi une façon de faire entrer le public dans les coulisses de la création, du dessin, pour désamorcer peut-être aussi une vision de la bande dessinée alternative comme étant parfois, enfin qualifiée parfois de trop intellectuelle, pas assez divertissante, ou bien, enfin voilà, c'est une question ouverte, même si j'oriente un peu ma réponse dans ma façon de la formuler.
Oui, je pense que c'est un cliché un petit peu qui colle à la, ce qu'on appelle la bande dessinée alternative, hein, trop intellectuelle ou pas assez divertissante. Oui, alors nous, on cherche des formes de présenter le travail des autrices et des auteurs, parce que déjà, ça nous amuse, on a envie de s'amuser. On réfléchit, on discute avec, justement avec les créateurs eux-mêmes, et cette année, par exemple, on a confié des espaces, deux espaces en l'occurrence, à des autrices et des auteurs pour qu'ils expérimentent, qu'ils fassent effectivement une sorte de laboratoire. Je pense ici à Sabine Tessonnière et Gaspard Laurent, qui sont deux auteurs de bande dessinée, mais qui sont aussi commissaires, scénographes, éditeurs et chercheurs, puisque Sabine Tessonnière est docteur en bande dessinée, ça existe. Et donc eux, on leur a confié un espace, c'est une sorte de mini festival off du festival, dans lequel justement ils vont désamorcer un peu ces clichés sur, qui collent à la bande dessinée indé, en proposant au public tout à la fois une exposition, des ateliers, des rencontres, du faire ensemble, comme on dit, c'est-à-dire que voilà, y a la rencontre se fait vraiment en mettant les mains collectivement dans un projet sur 3 jours, une espèce de laboratoire d'expérimentation, mais totalement, enfin très ouvert et très accessible à toutes et à tous. Donc oui, on a envie de montrer depuis toujours aussi les dessous de la création, comment à travers notamment ce qu'on appelle des déballages, où on invite cette année des autrices à venir parler de la cuisine un petit peu de l'ouvrage qu'elles viennent de publier, soit à travers la présentation de leur documentation, toutes les étapes d'écriture et comment on passe d'une idée à un livre, les interventions de l'éditeur, le choix de la maquette, enfin voilà, c'est une façon de montrer les coulisses de la bande dessinée. Et donc on cherche toujours des formes comme ça pour essayer de sortir de la traditionnelle exposition de planches, même si j'aime beaucoup les expositions de planches, on en fait aussi, mais voilà, on essaie d'être un objet vivant et en perpétuelle réinvention, pour utiliser un mot à la mode.
Alors la BD indépendante, c'est la beauté de ce qu'on appelle le 9e art parfois, mais c'est aussi souvent des sujets sociaux, politiques, qui touchent à une forme d'engagement. Serge Vanzik, en tant qu'éditeur, à quoi êtes-vous particulièrement sensible dans vos choix, qui au départ étaient les vôtres et qui sont maintenant partagés par une équipe? On en parlera tout à l'heure quand on reviendra aux difficultés que représente le défi de l'édition alternative.
C'est vrai que les goûts que j'ai portés pendant 20 ans à travers ça et là, les miens donc, étaient plutôt, enfin en tout cas en partie, orientés vers tout ce qu'on appelle de façon un peu schématique la non-fiction, et qui s'est beaucoup développé dans le champ de la bande dessinée ces 20 dernières années, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'autobiographie, du documentaire, du reportage, du réel, hein, tout simplement. Et donc ça représente une partie, je ne sais pas, la totalité des titres qu'on a publiés chez ça et là. On a publié 210 titres en une vingtaine d'années d'existence, mais c'est vrai qu'on en retrouve beaucoup, parce que moi j'ai toujours été fasciné par ce registre-là depuis que je suis gamin, depuis l'histoire de France en bande dessinée, depuis les histoires de l'oncle Tom dans le journal de Mickey. Ça date d'il y a longtemps en fait, hein, mais ça a été relativement... circonscrit à quelques magazines ou quelques livres pendant des années, et ça a explosé au début des années 2000, fin des années 90, avec des titres comme Mao, c'était le premier fin des années 80, mais c'est vraiment avec Persepolis et tout ce qui s'est en suivi derrière qu'on a vu l'émergence d'une branche entière de la bande dessinée, avec des revues comme la revue dessinée qui sont spécialisées là-dedans. Et c'est vrai que c'est un registre qui m'intéresse fortement, et on a beaucoup d'auteurs qui sont dans ce champ-là, que ce soit l'Iranien Manan Yestani, l'Autrichienne Uli Lust, des auteurs de plein de pays, puisque dans énormément de pays on a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui se sont emparés de la bande dessinée par le biais du récit intime, du réel en fait.
C'est un vecteur important et différent, très singulier, la bande dessinée, pour parler de la marche du monde et contribuer à son intelligibilité. Qu'est-ce qui fait c'est la singularité de ce médium?
Bah, le fait que ça soit quand on parle de non-fiction, que ça soit un médium qui permet de faire passer des informations de façon visuelle, en utilisant la grammaire de la bande dessinée, c'est-à-dire que c'est le lecteur ou la lectrice qui décide de la vitesse à laquelle il va lire les choses. Donc c'est pas comme un récit audiovisuel ou un documentaire télé, cinéma ou radio. Là, on est vraiment dans une appropriation du rythme par le lecteur et la lectrice, et ça permet du coup aux auteurs ou aux autrices qui utilisent de façon pertinente, je dirais, la grammaire de la bande dessinée, de faire passer énormément de choses, parfois sur des champs complexes. Enfin, moi, il y a toujours un exemple que je donne. Il y avait dans la revue dessinée un reportage en bande dessinée sur les empreintes toxiques. C'est Benjamin Ardant, je crois, qui s'appelle le dessinateur. Et c'était génial, génialement. Enfin, on comprenait tout, alors que j'avais jamais vraiment compris de quoi il retournait. L'humain étant un animal visuel, c'est vrai qu'on imprime parfois mieux et plus facilement quand on voit les choses dessinées. Donc, c'est pas toujours réussi, évidemment, hein, mais c'est la bande dessinée est un médium extra souple. On peut faire énormément de choses de façon très très variée. Alors pas seulement dans le champ de la non-fiction d'ailleurs, parce que ça va des auteurs et des autrices qui ont un style très très réaliste, qui peuvent faire des bandes dessinées très réalistes, ou des gens qui vont vers un minimalisme absolu. Nous, on a édité deux auteurs, dont un qui a fait l'objet d'une exposition ici, Łukasz Wojciechowski, qui est un auteur polonais qui est architecte de formation et prof d'archi, qui fait de la bande dessinée sous AutoCAD, le logiciel des architectes, pas du tout fait pour faire de la bande dessinée, mais il s'empare de ça, il arrive à faire quelque chose, et c'est vrai que l'exposition qui avait été organisée ici permettait d'expliquer ce que c'était et de montrer que finalement c'était pas si compliqué que ça et qu'il y avait un vrai propos, un vrai sujet et un vrai travail. Et d'ailleurs, un de ses titres, Dom Dom, avait été sélectionné au Festival d'Angoulême il y a quelques années. Et on a aussi un auteur comme Martin Panchaud dans ce registre-là du, je dirais, ultra-minimalisme, qui fait de la bande dessinée en représentant les personnages sous forme de cercle vu d'en haut. Donc on est vraiment dans un registre qui montre la plasticité folle de la bande dessinée. Et c'est ça que je trouve excitant, au-delà des genres registre fiction ou non-fiction. C'est vrai que c'est assez génial de voir à quel point on peut faire beaucoup de choses avec la bande dessinée.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Alors, vous publiez en cette rentrée, Serge Evanzik, trois ouvrages particulièrement intéressants, très différents justement dans leur approche. On parlait de Manan Yestani, qu'on a reçu ici avec vous pour une exposition suivie d'une émission. Il publie cette fois collectivement avec Touka Neyestani et Chaga Yeg Moazam, j'espère que je ne déforme pas son nom, un ouvrage sur un événement très récent de notre histoire, l'explosion au décollage d'un avion de l'Airlines Ukraine, explosion qui a valu la mort à l'une de ses amies, Shadi, à qui il rend hommage. Et puis, alors on retrouve son style très, très particulier, dessin hachuré, nerveux, noir et blanc avec quelques coulées de sang. Et par ailleurs, Lioun, le printemps prochain, magnifique livre, très minimaliste. Ça illustre l'immense diversité qui s'offre à vous pour montrer à la fois la diversité d'écriture, mais aussi la diversité dans le dessin, dans l'approche visuelle.
Et oui, c'est vrai que c'est intéressant de comparer ces quatre auteurs en l'occurrence, puisque dans Shadi, il y a trois auteurs, une iranienne et, comme vous l'avez dit, deux iraniens qui vivent tous les trois en exil. Et déjà, comme chacun dessine un chapitre, ils alternent chacun un chapitre à tour de rôle, on voit, même s'ils racontent un récit commun, chaque chapitre est le reflet de la personnalité de son auteur, de son autrice, et de son style de dessin, de la façon de raconter les histoires en bande dessinée, de la façon dont il s'approprie le médium. Et entre le style de dessin de Manan Yestani, lui qui lui vit en France depuis une quinzaine d'années, qui fait beaucoup de dessins de presse, celui de son frère Touka Yestani, qui lui aussi illustrateur de renom mais qui vit exilé au Canada à Toronto, et celui de Chaga Yeg Moazami qui est donc vit à Montréal, on est dans trois registres complètement différents. Mais ça crée quand même une homogénéité. De toute façon, ils ont un texte à porter et surtout ce drame et la façon dont ils ont vécu ce drame du vol PS752 de l'Ukrainian Airlines, où d'ailleurs la totalité des passagers sont morts puisqu'elle a été exposée en plein vol. Et donc c'est vraiment... Quand on le compare, c'est vrai, graphiquement, au travail de Liu Jun, qui est une autrice chinoise, qui fait une présentation ici dimanche pour parler de son travail sur la couleur, qui est une autrice qui a, elle, une formation dans les beaux-arts en Chine et qui travaille sur la couleur de façon assez impressionnante, avec un mélange de techniques à base de peinture et de feutre, pour faire aussi un récit de non-fiction, puisqu'elle parle de l'histoire de sa tante dans un village reculé de la Chine et à quel point celle-ci passe ses journées à rien faire et son quotidien s'illumine uniquement une ou deux fois par an quand il y a des fêtes familiales. Et c'est intéressant de voir effectivement comment on peut avoir des démarches artistiquement hyper différentes pour faire des projets qui finalement se ressemblent dans le fond, puisqu'il parle de... chacun des auteurs va parler de quelqu'un qu'il connaît. Et donc voilà, on a aussi une autre parution de Linda Barry, qui est une autrice américaine qui est aussi dans le champ quasiment de la non-fiction, puisque c'est un travail qui est en grande partie autobiographique, qui est les chroniques à travers des strips de la vie et du quotidien des sœurs Mullen, Maybonne et Marlise, qui est une grande série du patrimoine américain sous forme de strips en noir et blanc, et où elle chronique à travers le regard de ces deux pré-ados qu'est-ce que c'était qu'être une petite fille dans l'Amérique des années 70. On avait fait un premier volume qui s'appelait Come Over, qui a eu le prix du patrimoine à Angoulême cette année, et le deuxième vient tout juste de sortir, s'appelle Perfect Life.
Over and then.
Vous êtes à l'écoute d'Aligre FM 93.1 au fil des pages et depuis ce matin 10h, nous parlons du festival Formula Bulla consacré à la bande dessinée qui ouvre ses portes demain à Césure et se prolongera jusqu'au 28 septembre. Avec moi dans ce studio, Raphaël Barban, Serge Evanzik. Raphaël Barban, je rappelle que vous êtes directeur artistique de ce festival qui depuis quelques années décerne un prix. Est-ce qu'on peut parler de la sélection de cette année et de la manière dont vous choisissez les livres qui font partie de cette sélection?
Ouais, alors ce prix, en fait, au départ, c'était justement une... Il n'y avait pas de prix au départ, c'était une sélection, c'était une mise en avant de 6 ou 8 titres qui sortent entre fin août et le moment du festival fin septembre. Alors, c'est on expérimente, hein, comme je disais tout à l'heure. L'idée, c'était de mettre en avant 8 titres de bande dessinée indé de la rentrée littéraire, on va dire. Donc, il y avait un partenariat avec des librairies, enfin, qui existe toujours, avec les belles lettres diffusion, avec Paris Librairie, etc. Et une mise en avant en librairie à travers des bandeaux de la sélection. Depuis 2 ans, on a basculé le titre sur un prix, parce que même si au départ j'étais plutôt réticent, c'est plus efficace en termes de visibilité, ça tire la sélection vers le haut, et puis c'est intéressant. Enfin, voilà. Du coup, je l'assume totalement. Et donc la première année, c'était il y a 2 ans, c'est un bouquin du Frémoc de Thierry Van Hasselt, La véritable histoire de Saint-Nicolas, qui a gagné le prix Prima Bulla, qui a un prix doté, son auteur reçoit 1000 euros. Et l'an dernier, comme le disait Serge, c'est Solé Otero avec Walicho aux éditions Ça et là qui a remporté le prix.
On peut peut-être dire un mot de ces deux livres aussi pour donner aux auditeurs et aux auditrices qui ne connaîtraient pas bien la bande dessinée, pas le festival, l'envie de découvrir.
Ben, Walicho, c'est un récit, alors c'est un bouquin assez fou, hein, parce que c'est un récit choral, on peut dire ça comme ça, qui traverse les époques, sur l'Argentine. C'est un bouquin féministe aussi, hein, je dirais, très militant. Mmh. C'est difficile de pitcher le bouquin. je ne sais pas, peut-être que Serge, toi, tu as...
Alors, oui, quand j'en parle, je dis souvent que c'est une histoire de 3 sœurs sorcières qui, effectivement, sur 4 siècles de l'histoire de l'Argentine, vont bouleverser la vie de toute une galerie de personnages qu'on va rencontrer à travers 9 histoires qui rythment le livre de 1750 à nos jours. Et donc, de cette autrice, Solé Otero, autrice argentine, on avait déjà publié Naphtaline, il y a un autre roman graphique, son premier publié en France il y a quelques années, qui avait déjà un petit peu marqué. C'est vrai que Walicho est très, très ambitieux, c'est un livre qui fait à peu près 430 pages de mémoire, et tout en couleurs, enfin un travail de très longue haleine, et on était ravis. Et avant que tu présentes peut-être le livre de Thierry Van Hasselt, ce que je voulais peut-être rajouter, c'est vrai que les prix, c'est très important pour les auteurs et les autrices, les maisons d'édition aussi, parce que c'est une forme de gratification, de reconnaissance, et on a besoin de ce genre de retour. Là, c'est très... très, très, très apprécié, et a fortiori les prix dotés. Et ça, c'est quelque chose que je tiens à souligner, parce qu'il y a plein de prix qui existent, mais qui ne sont pas dotés. C'est-à-dire que les auteurs et les autrices gagnent le prix, ce qui est déjà bien, mais rien d'autre. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait de l'argent qui soit donné avec le prix, c'est très important. On connaît la précarité, la très grande précarité dans laquelle vivent beaucoup d'auteurs et d'autrices dans le champ de l'édition, et en général, et en bande dessinée en particulier. Et c'est vrai que on est tous très sensibles aux organisateurs de prix qui font cet effort-là.
Allegre FM 93.1.
Ouais, et je voulais préciser que le prix, en fait... Donc moi je fais une sélection de façon totalement subjective, et c'est ça qui m'intéresse aussi. Je suis un dictateur artistique, comme dirait Paquito Bolino. Et ensuite cette sélection, je la remets aux adhérents de l'association qui organise le festival, Formula Bua, qui se portent volontaires pour faire partie d'un jury. Donc les adhérents de l'association vont lire les titres bien souvent en PDF, parce que justement tout ça se fait dans un temps très court, et là par exemple il y a des ouvrages de la sélection de cette année qu'on a eu en main il y a 3 semaines, parce qu'ils sont sortis la semaine dernière, enfin voilà, on les a très tardivement. Ça a son importance puisque ensuite il y a donc un premier tour où on doit sortir 3 titres des 8, et ensuite il y a un second tour qui sera demain sur le festival à 17h30, où là un grand jury toujours composé d'adhérents et d'adhérentes se réunit et découvre pour la première fois les livres en tant qu'objet. Et ça c'est alors voilà, c'est un peu tarabiscoté comme fonctionnement, mais c'est vachement intéressant parce que justement le bouquin de Thierry Van Hasselt il y a 2 ans, c'est au moment du second tour qu'il a vraiment raflé la mise, parce que l'objet a surpris tout le monde. Et voilà, donc je trouve que ça c'est super intéressant, parce que c'est vraiment une mise en valeur du travail des maisons éditions dans le façonnage, dans la création de l'objet. Et donc cette année on a 8 titres qui sont en compétition. Je vais pas en parler parce que j'ai un devoir de réserve.
Oui, bien sûr. Oui.
Voilà, l'idée c'est de sélectionner des choses qui moi m'emportent à la lecture. Donc je contacte les maisons d'édition, je leur demande ce qu'elles ont de prévu dans cette tranche dans ce moment de la rentrée, et puis j'essaie de composer aussi une sélection qui soit paritaire, hein. Et voilà, et donc cette année il n'y a que des bons livres, hein. Voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus, et le prix sera remis demain soir au moment de l'ouverture du festival.
C'est ça, ce qui permet aussi de un moment de clore avec un moment fort, la première journée. Il va y avoir beaucoup de choses à saisir, on l'a dit en début d'émission, Raphaël Barban, mais aussi hors les murs. Comme à chaque fois, on peut peut-être évoquer quelques événements importants, ils le sont tous, j'imagine, mais quelques-uns, juste pour donner envie aux auditeurs et aux auditrices aussi d'aller voir ailleurs.
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il se trouve que là, je vais parler d'un truc qui s'est déjà produit, mais parce que c'était hier soir. C'était un déballage rencontre de Lucas Harari autour de son ouvrage Le cas David Zimmerman à la médiathèque Marguerite Duras. J'en parle parce qu'il a une exposition qui est une exposition associée au festival actuellement, une exposition justement de planches originales du cas David Zimmerman à la Galerie Barbier. Donc je vous invite à aller découvrir son travail, enfin les planches originales du bouquin. On a des événements dans pas mal de médiathèques dans Paris, parce que pour nous c'est important de maintenir ce lien avec les médiathèques, parce qu'on est un festival qui est né dans une médiathèque, en l'occurrence la médiathèque Persépolis à Saint-Ouen. Les médiathèques, c'est un lieu de... je enfonce des portes ouvertes, mais c'est un lieu de lecture, de livres, de savoir. Et pour nous, c'est hyper important de continuer à travailler dans des médiathèques, même si on est maintenant dans un lieu comme Césure. On a des activités en Île-de-France, au Microfolies de Noisy-le-Sec la semaine prochaine. Donc il y a une programmation satellitaire qui démarre un peu avant, qui se poursuit pendant et qui se prolonge après les dates du festival. Nous avons une très belle exposition jeunesse de Camille Louzon, actuellement présentée à la médiathèque Violette-le-Duc dans le 11e arrondissement. Bref, je pourrais en parler pendant des heures, mais grosso modo, on va avoir un spectacle aussi jeunesse dans un centre d'animation du 10e arrondissement au CRL 10 le 4 octobre, un très beau spectacle sur le vivant. Voilà.
Alors on a parlé des ateliers collaboratifs, il y a aussi des masterclass. C'est important ça pour mettre en perspective les productions contemporaines et l'histoire de la bande dessinée par exemple.
Alors ce qu'on appelle nous une masterclass, hein, je ne connais pas exactement la définition de la masterclass, mais c'est une rencontre autour vraiment d'un seul artiste qui, avec un modérateur ou une modératrice qui va creuser l'œuvre de cet artiste quoi, en public. Donc effectivement, on va avoir une belle rencontre autour du travail de David B., auteur phare des éditions de l'association, plus qu'auteur, puisqu'il a participé à la création de la maison d'édition, et qui a un livre en compétition pour le prix Prima Bulla, Monsieur Chouette à l'association. Et David B. va, à travers six ouvrages, de l'ensemble de sa carrière, ben on va traverser justement son travail en s'appuyant sur six bouquins qu'on a choisis avec le modérateur de la rencontre et David B. Et puis on a une belle rencontre aussi avec un réalisateur de cinéma d'animation, puisque Formula Bulla, on aime bien parler du dessin, qu'il soit figé ou animé. Et en l'occurrence, c'est un projet qu'on a monté avec l'école des Gobelins, puisque depuis 2 ans, on collabore aussi avec eux, donc ça fait partie des activités satellitaires. Demain, vendredi, Georges Schwitzebel, un grand réalisateur de films d'animation, multiprimé, très connu, mais que personne ne connaît, parce qu'à Formula Bulla, on aime bien ce genre de clients. Un réalisateur qui fait la peinture animée, en fait. Il n'a réalisé que des courts-métrages, il continue de réaliser des courts-métrages, et c'est de la peinture animée avec de la musique, sans texte, sans dialogue. Et il va donc dicter une masterclass aux étudiants de l'école Les Gobelins, mais pas uniquement, puisque en partenariat avec l'école, on a décidé d'ouvrir cette masterclass au public aussi de Formula Bulla, ou public parisien. Donc je trouve que c'est intéressant de pouvoir faire rentrer des gens de l'extérieur dans une école mythique, hein, quand même culte, comme l'école des Gobelins.
Qui n'est pas très loin d'ici, voilà. Du reste. Et effectivement, je suis allée voir et je ne connaissais pas Georges Schwitzbel, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Ses dessins sont absolument fabuleux. Serge Evanzik, je me tourne de nouveau vers vous, cette fois pour évoquer un petit peu les difficultés de l'édition indépendante de bande dessinée. Vous avez traversé un passage un peu difficile qui vous a amené à restructurer votre maison d'édition, ça et là. Alors même que vous le rappeliez, vous avez été récompensé de nombreux prix. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les difficultés de ce choix de l'édition indépendante de bande dessinée ?
Oui, alors c'est vrai que là on parle d'un moment festif, donc on est tous contents de parler de Formula Bulla et de participer à Formula Bulla, mais le contexte lui est moins festif, c'est-à-dire que le domaine de l'édition au sens large ne va pas très bien, et les éditeurs de bande dessinée, les maisons d'édition indépendantes notamment, connaissent pas toutes, mais dans leur très grande majorité, des difficultés croissantes. Depuis peut-être maintenant à peu près un an, les libraires vont moins bien, il y a un peu moins de gens qui vont en librairie, les grands lecteurs, les grandes lectrices achètent un peu moins de livres ou achètent plus de livres d'occasion. Il y a des gens qui se détournent peut-être de la lecture aussi. Il y a une étude du Centre National du Livre, le CNL, qui a été publiée au début de l'été, qui faisait un petit peu peur sur les pratiques de lecture déclinantes de l'ensemble de la population, hein, pas seulement des jeunes, parce qu'on a tendance à parler des jeunes, mais en fait pas que. Donc il y a tout un ensemble de facteurs qui font que, et j'en ai je n'ai pas parlé de tous là qui font que c'est compliqué en librairie. Et quand les libraires ne vont pas très bien, bah, les maisons d'édition vont mal. Hein, puisque pour la quasi-totalité d'entre nous, on dépend en très très grande partie de nos ventes en librairie. Et on a des liens très forts avec les librairies, mais du coup, il y a un effet direct sur la santé des maisons d'édition. Et les maisons d'édition indépendantes comme ça et là, bah, la plupart d'entre elles n'ont pas de matelas de trésorerie, n'ont pas de réserve, n'ont pas les moyens de faire face à des situations compliquées comme celle-là. C'est-à-dire que nous, pour vous donner un exemple, on publie 11 titres par an, parce que c'est un choix qu'on a fait il y a longtemps de se limiter. À vrai dire, on en faisait 13 avant, et pendant le Covid, on a entendu tous les libraires qui disaient il y a trop de bouquins, il y a trop de nouveautés, il faut profiter de ce moment-là pour essayer de baisser la voilure. Et on les a entendus, donc on est passé à 11 titres, parce qu'on estime qu'on peut bien s'en occuper comme ça. Si on en faisait 15-20, on ne pourrait pas bien s'en occuper. Donc on fait 11 titres. Sur ces 11 titres, il y en a, je dirais, 7 ou 8 qui perdent de l'argent chaque année. C'est-à-dire que c'est des bouquins qui ne sont pas forcément faciles d'accès, et on comprend, donc c'est des ventes qui sont limitées.
Nous, par exemple,
La médiane de nos ventes, c'est-à-dire le nombre de ventes qui sépare la moitié des titres qu'on publie chaque année est à peu près 800 exemplaires. C'est-à-dire qu'on publie une nouveauté dans l'année, il y en a la moitié qui vont se vendre à moins de 800 exemplaires, l'autre moitié à plus de 800 exemplaires.
Et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un titre qui n'a pas marché, peut-être à cause de sa difficulté d'accès, vous disiez que ça pouvait être lié à ça?
C'est toujours compliqué de déterminer qu'est-ce qui fait qu'un livre ne marche pas. Mais je dirais que la règle pour nous, c'est qu'un livre se vend peu. On a les livres dont je parlais tout à l'heure de Lukas Wojciechowski, les bouquins sous AutoCAD, c'est des formats atypiques, une forme de narration compliquée. En plus, on ne cède pas non plus parce qu'il y a un de ces livres, il n'y a rien en couverture. Du tout. Il n'y a ni l'auteur, ni le titre. Donc on pousse assez loin. C'est vraiment déconseillé par tous les marketeurs de la place de Paris dans le domaine de l'édition. Mais nous, c'est jamais un critère. Le potentiel commercial d'un livre n'est jamais un critère dans le choix de publier un livre. Et la façon dont on va le publier, le façonnage, la fabrication, qu'est-ce qu'on mettra en couverture ou pas, c'est une discussion qu'on a avec l'auteur et l'autrice, mais à aucun moment on se dit non, on va pas faire ça parce qu'on va pas en vendre. Nous, pour donner un ordre d'idée, on sait bien que les livres à l'italienne ou les livres carrés, ça se vend moins qu'un livre à la française, c'est-à-dire dans le format habituel, à peu près 17x24 dans le roman graphique. Néanmoins, on en fait plein qui sont dans ces formats plus difficiles parce que c'est le souhait de l'auteur et l'autrice, et nous on accompagne ça et ça nous fait plaisir. On sait que ça va être plus compliqué, mais c'est quand même des choix qu'on fait. Donc on remettra, je veux dire, même si a posteriori on disait ce livre là il s'est vendu à 500 exemplaires, on le referait quand même, on le referait à l'identique, et à chaque livre on essaie de lui donner les moyens de percer en termes de communication. On les envoie aux médias, on fait un travail d'accompagnement, on fait venir les auteurs, on fait des tournées, etc. Mais la réalité, c'est ça, c'est que la moitié vont se vendre à moins de 800 exemplaires, donc on perd de l'argent sur ça a toujours été le cas sur la plupart des livres qu'on publie. Ce qui est un peu différent maintenant, c'est qu'on perd plus d'argent qu'avant, puisque comme il y a moins de gens en librairie, les ventes moyennes baissent, et donc il y a un trou qui se creuse, et nous on est à l'os. C'est-à-dire qu'effectivement, au début de l'été, on a été obligé de faire une collecte de dons, créer une association des amis de ça et là. On est passé par Hello Asso, d'ailleurs elle va se terminer la semaine prochaine. On a été voir les banques, on a fait beaucoup de dossiers de subventions, parce qu'on était dans une situation de trésorerie intenable en fait, puisqu'on était pris dans cet effet de ciseau entre des coûts de fabrication qui augmentent tendanciellement, qui ont beaucoup augmenté il y a quelques années, maintenant ça s'est calmé, mais quand même les coûts des matières premières continuent à augmenter. Donc fabriquer un livre et une bande dessinée notamment, ça coûte cher, et ça coûte de toute façon un petit peu plus cher chaque année. Et en plus de ça, des ventes qui baissent. Donc cette économie très complexe, voire dangereuse, et la nôtre depuis longtemps, mais elle s'est dégradée soudainement depuis un an. Et c'est vrai que de ce fait, beaucoup de maisons d'édition indépendantes, les Requins Marteaux, Uchi Kuchi, ici même, l'association Bientôt, ça et là cet été, doivent faire un appel aux dons, trouver des moyens de trouver des sources de financement complémentaires pour pallier à cette forme de désaffection qu'on peut constater maintenant en librairie et qu'on espère temporaire.
Et vous voyez l'avenir comment ?
Alors, je dis toujours qu'un des grands super-pouvoirs des éditeurs et des éditrices, notamment dans le champ d'édition indépendante, c'est d'être dans le déni. si bien. On n'avait pas une capacité hors norme à être dans le déni, on aurait tout ça et tout arrêté depuis longtemps. Donc là, on est beaucoup à se dire, ça ira mieux. Et on touche le bois de la table de ce studio. Ça ira mieux, les fêtes de fin d'année vont arriver. Alors c'est vrai qu'on vend toujours beaucoup de bandes dessinées, les libraires vendent toujours beaucoup de livres et de bandes dessinées en fin d'année, donc on se raccroche à ça. Mais on verra, hein. En réalité, personne ne sait. Est-ce que c'est une situation qui est... C'est une évolution structurelle ou conjoncturelle? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a une évolution des pratiques culturelles qui font que les gens vont lire de moins en moins? Est-ce que le contexte économique, le contexte politique va continuer à se dégrader parce que ça incite pas les gens à aller en librairie et acheter des bouquins? Personne ne peut le prévoir. Donc, on est forcé de se dire ça va aller mieux un moment pour tenir et puis essayer de... Voilà, nous, on a réussi à... Dans le cas de Saïla, par exemple, à colmater les brèches et on est en phase de décopage, je dirais, pour remettre le navire un peu à flot. Mais peut-être que l'année prochaine, la situation sera également compliquée. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un moment où il va y avoir des effets domino très rapides. C'est-à-dire que si on constate que si les libraires ferment, commencent à fermer de façon significative, il y a déjà quand même pas mal de librairies qui commencent à fermer ou donner des signaux d'alerte. Après, les éditeurs ferment, les imprimeurs ferment aussi. Donc, toute la chaîne du livre, on parle de la chaîne du livre, l'effet chaîne, il va jouer dans son côté négatif à ce moment-là. Donc, on est très vigilant là-dessus. Mais on ne peut qu'espérer que ça va aller mieux.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et on l'espère aussi avec vous, Serge Evanzik. Raphaël Barban, un dernier mot peut-être. Alors évidemment, je ne voudrais pas, vous avez raison Serge de le rappeler, Formula Bulla, c'est avant tout un moment festif qui connaît un public de plus en plus important, je crois. Mais malgré tout, Raphaël Barban, que vous inspire ce témoignage de Serge Evanzik sur les difficultés de l'édition indépendante de la bande dessinée?
Ben, ça m'inspire de l'inquiétude, parce que ben, nous, si les maisons éditions vont mal, alors nous, on ne va pas super bien non plus, hein, actuellement. Mais,
manque de subventions?
Ouais, manque de... Ben oui, la conjoncture politico-économique, le court-termisme de la vision politique en matière de politique culturelle, socio-culturelle, parce que... On n'est pas que un événement culturel. Enfin, de toute façon, l'outil culturel est vu comme une dépense et non comme un investissement. Enfin, voilà, c'est tous ces sujets qui nous taraudent et qui nous inquiètent. Et nous aussi, on est dans le déni parce qu'on dit... enfin, voilà, on s'accroche au truc. Si on était réaliste, on aurait probablement arrêté depuis longtemps parce que c'est pas... c'est un métier passion, comme on dit, quoi. Et donc oui, effectivement, si la chaîne du livre se porte mal, si les librairies vont mal, si les éditeurs vont mal, ben nous on fait un festival, notre matière première c'est le livre, c'est les autrices, les auteurs, ce qu'ils racontent, les livres que fabriquent les éditeurs. Donc ouais, on est dans une période où ça tangue sévèrement. On a lancé une billetterie solidaire cette année, par exemple. Alors, ça n'a pas vocation à remplacer des baisses de subventions assez notables, voire très importantes qu'on a eues cette année et qui, semble-t-il, ne vont pas s'arrêter l'an prochain, quoi. Enfin, on ne rentre pas dans une période réjouissante, je dirais. Mais oui, on a lancé cette billetterie solidaire. C'est aussi pour lancer une sorte d'alarme, quoi, et pour essayer de fédérer autour de nous un public qu'on souhaite garder. Enfin voilà, on est un festival entièrement gratuit.
Oui, ça, il faut le rappeler, voilà, c'est important.
On souhaite continuer dans cette voie-là, mais parce que pour nous, c'est aberrant de faire payer une entrée à des gens dans un salon où l'idée, c'est qu'ils viennent justement acheter des livres. Donc bon, voilà. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire, je me perds dans mes pensées.
Donc la situation est difficile, mais on résiste.
La situation est difficile, mais on résiste. Mais voilà, on va résister jusqu'où, je ne sais pas. Mais,
Alors en tout cas, vivons l'instant. La 13e édition du festival Formula Bulla, c'est demain, avec une très très belle programmation, beaucoup de choses à découvrir dans une ambiance festive qui va réunir des passionnés, lecteurs, éditeurs, qui sont souvent d'anciens lecteurs, enfin qui sont toujours d'anciens lecteurs, et de beaux événements autour du dessin, des événements sonores aussi, on n'en a pas parlé. Rendez-vous demain, donc à partir de 9h, je crois, non ?
À partir de 11h.
11h, pardon. Ici même, à Césure, où Aligre FM a élu domicile pour une saison. Ça tombe bien. Merci Serge Evenzik d'avoir été à ce micro ce matin. Raphaël Barban, merci également. Merci. À la technique, René Clancy et Enrico Mastro Giovanni. Pardon, musique.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.